Open Blues.
Bonjour, bonjour et merci de nous retrouver pour l'émission Open Blues. Je suis Alain sur Oxy Web Radio et je vous invite à poursuivre l'étude des albums importants parus entre 1965 et 1975, tous inspirés fortement du blues.
J'ai déjà évoqué la passionnante carrière de Stevie Wonder lors d'une première partie consacrée aux premières années dites classiques de sa production. Démarrée en 1970, cette phase de sa carrière, dont la partition est avant tout pratique pour moi, afin de vous donner le maximum d'informations, elle s'est arrêtée en 1976. Ensuite, dans ses productions ultérieures, Stevie s'est montré plus commercial. Commencé en 1962 au sein de Motown Records à Détroit, sous l'égide de Berry Gordy, son fondateur, celui qu'on appelait Little Stevie Wonder, Stevie la petite merveille, a obtenu de haute lutte son indépendance pour sa production musicale en 1971, pour ses 21 ans, et sa majorité qui lui permit de s'émanciper de la pression de la Motown. Stevlin Hardaway Morris, né en mai 1950, est désormais connu comme Stevie Wonder. Auteur, compositeur, interprète et multi-instrumentiste, Stevie est reconnu comme un pionnier et un influenceur majeur par des musiciens de rhythm and blues, de soul, de pop, de gospel, de funk et de jazz, rien que ça. Son utilisation précoce de synthétiseurs et autres instruments de musique électronique au cours des années 70 a remodelé les conventions du rhythm and blues. Il a également fait passer des messages à caractère social, voire politique, dans une Amérique encore rétive à la reconnaissance des droits civiques pour les Noirs. La première partie s'était achevée sur l'album Talking Book, où le titre Superstition révéla la puissance du son du clavier du Honor Clavinet. Aujourd'hui, nous allons parler de trois albums qui sont également aussi majeurs et qui ont tous remporté le Grammy Awards pour l'album de l'année. Pour ceux qui ne se rappellent pas de Superstition, version Stevie Wonder et non Jeff Beck, en voici un extrait. Commence donc par Inner Visions, qui est le 16e album studio de Stevie Wonder, sorti le 3 août 1973 sur le label Tamla pour Motown Records. Il est considéré comme l'album de transition entre celui qui passe encore pour Little Stevie Wonder et ses ballades romantiques à Stevie Wonder, c'est-à-dire un artiste plus mature, conscient de la réalité sociétale américaine et surtout adulte sur le plan musical. Avec Stevie Wonder, on a le premier artiste majeur à expérimenter le synthé révolutionnaire Tonto, qui signifie The Original New Timbre Orchestra, développé par Malcolm Cecil et Robert Margouleff, et également l'harpe synthétiseur à grande échelle. Aussi, Inner Visions est devenu extrêmement influent sur l'avenir ultérieur de la soul commerciale et de la musique noire. Et je propose de vous faire écouter le titre Living for the City, Vivant dans la ville, qui fut un single de 1973 tiré de l'album. Il a atteint la 8e place du classement Billboard Hot 100 et la première place du classement Rhythm and Blues. Rolling Stone a classé la chanson à la 104e place sur sa liste 2004 des 500 plus grandes chansons de tous les temps. Les paroles évoquent un jeune homme noir né dans une famille pauvre du Mississippi qui est victime de discrimination dans sa recherche d'emploi et souhaite rejoindre New York dans l'espoir de trouver une nouvelle vie. Grâce à une série de bruits de fond et de dialogues, on devine l'arrivée en bus à New York. Or, ce jeune noir est ensuite rapidement accusé d'un crime, arrêté, reconnu, coupable et condamné à 10 ans de prison. Bref, ce n'est pas mieux pour sa vie. Stevie Wonder a joué de tous les instruments pour cette chanson et a été assisté par Malcolm Cecil et Robert Margouleff pour l'ingénierie d'enregistrement et la programmation du synthétiseur Tonto.
A boy's born in hot damn Mississippi, surrounded by four walls that ain't so pretty. His parents give him love and affection to keep him strong, moving in the right direction, living just enough for the city. His father works some days for 14 hours, and you can bet he barely makes a dollar. His mother goes to scrub the floors for Minnie, and you best believe she hardly gets a penny. Living just enough for the city.
C'était Living for the City par Stevie Wonder sur OxyWeb Radio. Les 9 titres d'Inner Vision englobent un large éventail de thèmes et de problématiques. Cela va de la toxicomanie dans Too High, en passant par les inégalités et le racisme systémique dans Living for the City, jusqu'à l'amour dans les ballades All in Love is Fair et Golden Lady. Avec His Mistral Know It All, on a une attaque cinglante contre le président américain de l'époque, Richard Nixon, et Stevie fera d'autres chansons sur ce sujet. Inner Vision a culminé à la 4e place du Billboard des albums et à la 1ère place du Billboard des albums de soul, terminant finalement à la 4e place du palmarès des meilleurs albums pop du magazine en 1974. Au 16e Grammy Awards, il a remporté l'album de l'année et le meilleur Engineering Non-Classical Recording, tandis que Living for the City a remporté le prix de la meilleure chanson Rhythm and Blues. Trois jours après la sortie commerciale d'Inner Vision, le 6 août 1973, en revenant d'un concert, Stevie Wonder a eu un accident de voiture dont il a mis longtemps à se remettre. Pendant 4 jours, il est resté dans le coma, soulevant la tension des médias et la préoccupation des parents, amis et fans. Heureusement, il s'en est finalement bien remis. Je vous propose le deuxième titre avec « Is Mr. Not It All », qu'on pourrait traduire « C'est Monsieur qui sait tout », paru en single qui atteignit la 10e place des charts singles même au Royaume-Uni en mai 1974. La chanson prend la forme d'une ballade douce avec un rythme régulier, principalement une performance solo de Stevie Wonder qui assure toutes les voix et joue de tous les instruments, à l'exception de la basse qui est jouée par Willie Weeks. Le son de la flûte est assuré par son synthétiseur modulaire Tonto. La chanson parle d'un escroc qui sait tout et qui veut tout, qui a une réponse astucieuse à tous ses détracteurs et a un faux dollar dans sa main. Il a été suggéré qu'il s'agissait d'une référence au président américain Richard Nixon.
Take your head off to the man who's got the blues.
c'était Is Mr. Know It All par Stevie Wonder sur OxyWeb Radio. Comme pour Music On My Mind et Talking Book l'année précédente, Inner Vision a été chaleureusement accueilli par les critiques musicaux. Les compétences musicales polyvalentes de Stevie Wonder ont été saluées par la critique. Et ce sera la même chose avec son 17e album studio, sorti par Motown le 22 juillet 1974. À la suite des récits épiques et de la conscience sociale d'Inner Vision, le nouvel album, au nom compliqué, Fulfillingness First Final, qu'on pourrait traduire rapidement par Premier Final Satisfaisant, a projeté un ton réfléchi et résolument sombre. Bien que magistraux, les arrangements musicaux utilisés dans plusieurs chansons font penser au premier disque des années 70. Bien que l'album ait été en grande partie un disque dépouillé et plus personnel, Stevie Wonder n'avait pas complètement renoncé aux commentaires sociaux sur le monde qui l'entourait. Le single numéro 1 au Billboard Hot 100, You Haven't Done Nothing, Vous N'avez Rien Fait, porte une critique pointue sur l'administration Nixon, renforcée par la sonorité de l'honneur clavinet. D'une boîte à rythme, ce qui était encore nouveau à l'époque, et du chœur qui était assuré par les Jackson 5, le groupe des frères de Michael Jackson. Billboard a décrit You Haven't Done Nothing comme exceptionnellement puissant et plus subtil que la plupart des chansons de protestation, louant en particulier l'arrangement du synthétiseur et la performance vocale. Et c'est vrai qu'une grande force se dégage de ce morceau que je vous propose d'écouter.
We are amazed, but not amused.
c'était You Haven't Done Nothing par Stevie Wonder sur OxyWeb Radio. Full Feelingness First Final fut le deuxième album de Stevie Wonder à figurer en tête des charts du Billboard pour ce qui concerne les albums, où il est resté pendant 2 semaines. Il a également atteint la première place du classement Billboard des albums de soul, y passant 9 semaines non consécutives. L'album a remporté 3 Grammy Awards en 1974, dont celui de l'album de l'année, mais aussi il a été placé à la 413e place parmi les 1000 meilleurs albums de tous les temps de Colin Larkin, qui est paru en 2000, et il est également cité parmi les 1001 albums que vous devez entendre avant de mourir. C'est une suggestion, faites ce que vous voulez. Il a aussi remporté les Grammy Awards de la meilleure voix masculine, de la pop et du rhythm and blues pour la chanson Boogie on Reggae Woman et de l'album de l'année 74. Boogie on Reggae Woman, justement, est le deuxième titre extrait de cet excellent album de funk de 1974. En effet, la chanson a un son résolument funk, rhythm and blues et pas du tout boogie ou reggae. Ce titre a fait prolonger la période de succès de Stevie dans le top 10 des charts pop, atteignant la 3e place, et a passé 2 semaines à la première du chart pour la soul. Billboard l'a classé comme la chanson numéro 26 pour l'année 1975. Avec elle, au 17e Grammy Awards, Stevie Wonder a remporté la meilleure performance vocale rhythm and blues masculine. Cette chanson contient le jeu caractéristique à l'harmonica de Stevie Wonder, mais pas son type chromatique habituel, plutôt un son blues. La chanson est également remarquable pour la ligne de basse pulsante du synthétiseur Moog de Stevie. Les paroles sont conçues comme un dialogue entre une intention gentille et coquine, avec l'introduction hésitante de la partie harmonica, avec la question décontractée mais répétée posée par Stevie, « Puis-je jouer ?» Bah, heureusement, il l'a fait. Hein. Deeply in love. c'était Boogie on Reggae Woman par Stevie Wonder sur OxyWeb Radio. Les deux albums que nous venons d'évoquer sont excellents, mais le suivant est encore meilleur. C'est un peu le double blanc des Beatles, le Tommy des Who ou encore le Live at Fillmore East de l'Allman Brothers Band. C'est le genre d'album que vous pourrez écouter toute votre vie tout en découvrant longtemps des choses nouvelles. Pour Stevie, c'est son 18e album studio, sorti en septembre 1976. Ce double album est considéré comme l'aboutissement de sa période classique. Il fut enregistré au studio Crystal Sound à Hollywood, avec quelques sessions enregistrées au Rocker Plant à Hollywood ou au Rocker Plant à Sausalito, ainsi qu'au Hit Factory à New York. Le mixage final ayant été effectué au Crystal Sound. En 1974, Stevie Wonder était l'une des figures les plus populaires de la musique US. Ce musicien prodige, né prématurément en 1950, est devenu aveugle suite à un excès d'oxygène dans sa couveuse, est un fils de parents divorcés, dont la mère, Lola Hardaway, fut une compositrice reconnue, notamment pour son fils d'ailleurs. Vedette à 11 ans, il a passé les périodes jusqu'à nos jours en s'adaptant et en innovant constamment sa musique. Il eut des idoles auxquelles il rendit hommage, comme dans Sir Duke, un premier titre tiré de Songs in the Key of the Life, apparu en 1976. Un titre qui est sorti en 45 tours en 1977 et le morceau a atteint le sommet à l'US Billboard Hot 100 et la deuxième place dans les charts du Royaume-Uni, ce qui fut son plus grand succès à l'époque. Elle a atteint aussi la 18e place du Billboard en 1977. Stevie Wonder adorait Dinah Washington et Wes Montgomery, un guitariste de jazz, mais Sir Duke est un hommage à Duke Ellington, décédé en 1974. Les paroles font également référence à Count Basie, Glenn Miller, Louis Armstrong ou encore Ella Fitzgerald, que du beau monde musical. Plus tard, en 1980, il rendit hommage à Bob Marley dans Master Blaster et à Martin Luther King Jr. avec Happy Birthday, qui plaidait pour un jour de fête dédié au pasteur. Ce qu'il obtint d'ailleurs.
Okay.
C'était Sir Duke par Stevie Wonder sur OxyWeb Radio. À la fin de 1975, Stevie Wonder envisagea sérieusement de quitter l'industrie de la musique et prévoyait d'émigrer au Ghana pour travailler avec des enfants handicapés. Les plans pour un concert d'adieu avaient commencé, mais Stevie Wonder a finalement changé d'avis et a signé un nouveau contrat avec Motown le 5 août 1975. C'était un contrat de 7 ans et de 7 albums de 37 millions de dollars avec un contrôle artistique total de sa part. À l'époque, c'était le plus gros contrat d'enregistrement de l'histoire. Songs in the Key of Life est sorti en double album avec un EP bonus de 4 chansons. Il a fait ses débuts à la première place du chart du Billboard des albums pop, devenant ainsi le troisième album à réaliser cet exploit et le premier d'un artiste américain à l'époque. Le premier single, I Wish, Je Souhaite, tout comme le suivant, Sir Duke que nous avons écouté, ont atteint la première place du Billboard Hot 100. Songs in the Key of Life a passé 13 semaines consécutives à la première place du Billboard 200, devenant l'album passant le plus de semaines à cette première place. C'était le deuxième album le plus vendu de 1977 aux États-Unis et en 2005, il a été certifié disque de diamant, ce qui veut dire 1 million de disques vendus. I Wish se concentre sur l'enfance de Stevie durant les années 50 jusqu'au début des années 60, sur la façon dont il souhaitait pouvoir revenir en arrière et revivre cette période. Pour info, c'est le public des radios qui a imposé I Wish comme premier single à tirer de l'album. Étonnant, non ?
Christmas.
c'était I Wish par Stevie Wonder sur OxyWeb Radio. Très perfectionniste, Stevie Wonder a passé de longues heures en studio pour presque chaque morceau qu'il a enregistré. Il ne mangeait ni ne dormait alors que tout le monde autour de lui avait du mal à suivre. Au total, 130 personnes ont travaillé sur l'album, mais la prééminence de Stevie pendant l'album était évidente. Parmi les personnes présentes lors des sessions figuraient des figures légendaires du rhythm and blues, de la soul et de la musique jazz. Je pourrais citer Herbie Hancock, George Benson, Minnie Riperton, Dennis Williams, pour les chœurs notamment. Mike Sambello joue de la guitare sur plusieurs morceaux. Au moment de sa sortie, les journalistes et les critiques musicaux, ainsi que tous ceux qui avaient travaillé sur l'album, se sont rendus à Longview Farm, un studio d'enregistrement du Massachusetts, pour un aperçu de l'album destiné à la presse. Tout le monde a reçu des copies dédicacées de l'album et Stevie a donné des interviews. La réception critique a été immédiatement positive. Troisième chanson tirée de l'album, voici « Isn't she lovely ?»« N'est-elle pas belle ? » ?»« N'est-elle pas jolie ?» dont les paroles célèbrent la naissance de sa fille, Aisha Morris. Stevie Wonder a collaboré sur la chanson avec l'auteur-compositeur et propriétaire de studio de Harlem, Bernetta Bennett-Jones. Le cri de bébé qui lance la chanson est celui d'un nouveau-né, et les bruits de fond sont ceux d'un enfant sur lesquels Stevie joue de l'harmonica. C'était « Isn't it she lovely » par Stevie Wonder. sur OxyWeb Radio. L'album est considéré comme une visite guidée via un large éventail de styles musicaux, la vie et les sentiments de l'artiste. Il comprend des souvenirs d'enfance, de premier amour et d'amour perdu. Il contient des chansons sur la foi et l'amour entre tous les peuples et des chansons sur la justice sociale pour les pauvres et les opprimés. Bref, c'est un album riche et dense qu'on ne peut apprécier qu'en lui consacrant du temps et de l'attention. Mais je vous assure, cela vaut le coup. Au fil du temps, l'album est devenu un standard et il est considéré comme l'album de référence de Stevie Wonder. C'est celui dont il se le dit le plus fier. De nombreux musiciens ont également remarqué la qualité de l'album et son influence sur leur propre travail. Par exemple, Elton John juge cet album indispensable, mais c'est aussi le préféré de Michael Jackson, Kanye West, George Michael, Mariah Carey ou encore Whitney Houston. Songs in the Key of Life a réussi à empêcher 4 autres albums d'atteindre le sommet. Dans l'ordre, on trouve Seal Degrees de Bob Skaggs, Earth, the Spirit, Earth, Wind and Fire, and The Song Remains the Same de Led Zeppelin. Le 15 janvier 1977, l'album est finalement tombé à la 2e place derrière Eagles et son Hotel California. Au total, l'album s'est vendu à environ 12 millions d'exemplaires dans le monde. Pour finir, je vous propose la chanson Another Star, une autre vedette, qui est le dernier morceau de la phase 4. Son rythme d'influence latine et un refrain inoubliable en font un morceau atypique pour Stevie, d'où l'intérêt de le passer ici. On entend la guitare de George Benson, la basse de Nathan Watts, le saxophone ténor de Trevor Lawrence et l'alto de Hank Red, les trompettes de Raymond Maldonado et Steve Madayo et la choriste Josie James, entre autres.
Thank you.
c'était Another Star par Stevie Wonder sur OxyWeb Radio. Il est généralement admis que la période classique de Stevie Wonder se situe entre 1972 et 1976, comme son nouveau style de clavier funky qu'il a utilisé tout au long de ces années-là. Certains déterminent que le premier album classique de Stevie est Music of My Mind de 1972, sur lequel il a atteint le contrôle personnel de la production et sur lequel il a programmé une série de chansons intégrées les unes aux autres pour faire un album concept dès la fin de 1972. C'est l'album dans lequel Stevie a atteint son rythme et sa plénitude. Pour m'adapter à cet immense artiste, et surtout au format de l'émission, j'ai fait des choix de chansons. Mais cette fois encore, je considère que les 7 albums parus entre 1970 et 1976 doivent être écoutés en entier, tellement ils me paraissent riches, denses et méticuleux. Pour les plus pressés, je conseillerais Talking Books, Inner Vision et Songs in the Case of the Life, que je considère absolument indispensable. La semaine prochaine, je vous parlerai des Who et de la version musicale du film réalisé en 1975 à partir de l'opéra rock Tommy. Une belle occasion de passer en revue les grands noms régulièrement évoqués dans Open Blues. Mais d'ici là, roulez blues!